Chapitre 1. Un fantôme mondain. Ce soir, messieurs Debienne et Poligny passent officiellement les pouvoirs au nouveau directeur, messieurs Richard et Moncharmin. Une grande réception est organisée au foyer. C'est une des danseuses étoiles, la Sorelli, qui doit faire un discours en leur honneur pour les adieux. Elle est en train de repasser son discours quand on frappe à la porte de sa loge. Une demi-douzaine de petits rats de l'opéra envahissent sa loge. Des jeunes danseuses rient de façon excessive. D'autres poussent des cris de terreur. La petite Cécile James dit d'une voix tremblante à la Sorelli en fermant la porte à clé.
« C'est le fantôme !»«
Quel fantôme, petite sotte! Vous l'avez vu » interroge-t-elle. « Comme je vous vois !» s'écrie Cécile James en s'asseyant sur une chaise. L'ami de Cécile, McGeary, prend alors la parole. « Si c'est lui, il est très laid !»« Oh oui !» reprennent en chœur les autres petits rats. Et elle raconte que le fantôme est apparu tout à coup devant elle, comme s'il sortait d'une muraille. Depuis quelques mois, tout le monde parle de ce fantôme en habit noir, qui se promène comme une ombre du haut en bas du bâtiment, qui ne parle à personne et à qui personne n'ose adresser la parole, et de sa façon d'apparaître et de disparaître d'un seul coup, sans faire de bruit. Tout d'abord, on a commencé par rire et se moquer de ce fantôme habillé comme un croque-mort. C'est un vrai squelette dans un habit de gala! Joseph Buquet, le chef machiniste, l'a rencontré dans le petit escalier près de la rampe qui descend directement au-dessous. Il a dit qu'il est très maigre et qu'il n'a pas de nez. Et puis il y a aussi ce pompier qui est allé faire un tour de surveillance et est revenu effrayé. Il a raconté qu'il a vu s'avancer vers lui, à hauteur de tête, une tête de feu, sans corps. Un silence angoissant règne dans la loge de la Sorelli. Et soudain, on entend un frôlement d'étoffe contre la porte, mais sans bruit de pas. « Allons les enfants, après tout, personne d'autre ne l'a vu !» s'exclame la Sorelli. « Si, si, Gabriel aussi l'a vu en plein après-midi et en habit de gala !» s'exclame Cécile. « Gabriel, le maître de chant ?» Oui, il était dans le bureau du régisseur. Tout à coup, la porte s'est ouverte, mais c'était le persan. Le persan, l'habitué qui porte malheur ? Lui-même. Il faut peut-être mieux rencontrer le fantôme alors. Pauvre Gabriel, dès qu'il aperçoit le persan, il touche du fer. En voulant alors toucher la clé de l'armoire, il a accroché son pantalon à un clou, a buté et est tombé. Il a voulu se rattraper au piano, mais le couvercle est tombé sur ses mains. Pour échapper au persan, il a couru vers l'escalier et l'a descendu en entier sur le dos jusqu'au premier étage. Eh bien, en nous voyant avec maman, il a remercié le ciel de s'en tirer avec si peu. Tout ça parce que le persan a la réputation de porter malheur. Non! Parce que derrière le persan, il y avait le fantôme avec la tête de mort, comme l'a décrit Joseph Buquet. « Joseph Buquet ferait mieux de se taire !» s'écrie McGeary. « Maman dit qu'il faut laisser le fantôme tranquille. »« Et pourquoi elle a dit ça, ta mère ?»« C'est à cause de la loge. »« Quelle loge ?»« Il a une loge, c'est ma mère qui l'a dit !» ajoute McGeary. « Une loge, petite sotte ? Et comment elle sait ça, ta mère ?»« Elle est ouvreuse à l'opéra, ma mère. Elle a la loge numéro 5, la première loge à côté de l'avant-scène. » Seul le fantôme a le droit d'y aller. Et d'ailleurs, les directeurs ne la louent à personne, parce qu'elle doit rester libre pour lui. Cécile, Cécile, es-tu là ? C'est maman. Qu'y a-t-il ? À ce moment, la mère de la petite James entre dans la loge de la Sorelli et se laisse tomber dans un fauteuil. Quel malheur, dit-elle. Joseph Buquet est mort. Les machinistes l'ont retrouvé pendu dans le troisième dessous. Et ils ont entendu chanter le chant des morts. Et pire encore, quand les pompiers l'ont décroché et posé par terre, eh bien, après, la corde avait disparu. Au foyer, pour la cérémonie des adieux des deux directeurs, le tout Paris est là. On ne parle que de Christiane Daae, la jeune cantatrice suédoise qui a remplacé au dernier moment la Carlotta indisposée. Christiane Daae a interprété de façon divine la Marguerite du Faust de Gounod. À la fin du spectacle, sous les tonnerres d'applaudissements, Christine s'est évanouie d'émotion et on a dû la transporter dans sa loge. On attend le docteur et les admirateurs se pressent dans sa loge. Parmi eux, il y a Raoul, le vicomte de Chagny. Avec audace, d'une voix autoritaire, il repousse le public dans le couloir pour faire de la place au médecin. Christine murmure dans un souffle. « Monsieur, qui êtes-vous ? » « Mademoiselle, répond Raoul en déposant un ardent baiser sur la main de la diva, « je suis le petit enfant qui est allé ramasser votre écharpe dans la mer. » Christine regarde Raoul sans comprendre et murmure. « Plus tard, monsieur. Maintenant, je souhaite rester seule. Je suis si lasse. » Christine Daae, jeune artiste dotée d'une belle voix, plaisait avant ce soir au public pour sa grâce naïve. Rien à voir avec la sensuelle Carlotta, dont l'indisposition soudaine a été une providence pour Christine Daae. On connaissait Christine pour son interprétation dans « Roméo et Juliette » de Gounod à l'Opéra Comique, Mais tout cela n'est rien à côté des accents surhumains qu'elle avait ce soir à l'Opéra Garnier dans le rôle de Marguerite du Faust de Gounod. Un journaliste écrira dans sa chronique plus tard « On n'a jamais vu une interprétation aussi sublime. Quand ses camarades l'ont emportée défaillante dans sa loge, Christine semblait avoir rendu l'âme. Cette douce jeune fille a apporté ce soir sur la scène un peu plus de son art, c'est-à-dire son cœur, car d'où peut venir ce caractère sublime d'aujourd'hui ? Il faut avoir aimé ou donné son âme au diable pour chanter comme cela. Est-ce que Christine a passé un pacte avec le diable ? Personne ne connaît son professeur de chant. » Sorti avec le docteur et la femme de chambre, Raoul reste seul dans le couloir. Il veut encore parler à Christine et s'approche de la porte. À l'intérieur, une voix d'homme dit sur un ton autoritaire « Christine, il faut m'aimer. » « Comment pouvez-vous me demander cela ? Je ne chante que pour vous, » répond Christine en pleurant. « Vous êtes fatigué, mais ce soir, les anges ont pleuré. Ce soir, je vous ai donné mon âme. » Raoul se cache dans l'ombre quand la porte s'ouvre. Christine sort seule sans refermer la porte à clé. Après un long moment d'attente, Raoul veut savoir qui il doit haïr. Il entre dans la loge plongé dans l'obscurité et le silence. Personne.